VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du mardi 22 novembre 2016. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
Au Nigeria, un juge de la Cour suprême inculpé pour blanchiment d'argent.
Au Burkina Faso, le corps de la santé va à son tour débrayer aujourd'hui.
Donald Trump explique ce qu'il compte faire dans les 100 premiers jours de son administration en janvier prochain.
En Syrie, les troupes du régime ont progressé rapidement hier dans les quartiers rebelles d'Alep.
Au Japon, l'avis de risque de tsunami levé sur l'ensemble des zones concernées.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Un juge de la Cour suprême du Nigeria a été inculpé hier de blanchiment d'argent dans le cadre d'une vague d'arrestations controversées au sein du pouvoir judiciaire. Le point avec Nani Talani.
Le magistrat Sylvester Nguta, âgé de 65 ans, a comparu devant une haute cour fédérale à Abuja, où il est accusé d'avoir blanchi plus de 1,6 million d'euros entre janvier et octobre 2016. D'après le parquet, lors d'une perquisition à son domicile, les enquêteurs avaient saisi 3 voitures de luxe, plusieurs passeports, dont des passeports diplomatiques, et de l'argent liquide, plus de 80 000 euros. Le procureur Charles Adeogun Phillips l'accuse d'avoir fait disparaître d'autres preuves. M. Nguta a plaidé non coupable. La haute cour lui a accordé une remise en liberté sous caution après versement de quelque 300 000 euros. Le procès a été ajourné au 7 décembre. Le juge Nguta avait été arrêté en octobre par la police secrète nigériane avec 6 autres magistrats. Le président Muhammadu Buhari, élu en 2015, a fait de la lutte contre la corruption son principal cheval de bataille.
De nouveau au Rwanda, mea culpa de l'Église catholique au nom de tous les chrétiens impliqués dans le génocide en 1994. Les évêques représentant les 9 diocèses du pays ont redemandé pardon. Le point avec Eric Manirakiza.
La lettre d'excuse a été lue dimanche dans toutes les églises catholiques du Rwanda à l'occasion de la clôture par le pape François de l'année sainte de la miséricorde. Nous demandons pardon pour tous les chrétiens qui ont été impliqués dans le génocide, précise la lettre. Kigali a réagi sur Twitter. Mieux vaut tard que jamais, s'est exclamée la ministre des Affaires étrangères Louise Mushikiwabo, indiquant que l'Église catholique du Rwanda s'excuse pour son rôle dans le génocide de 1994, 22 ans après. Le président de la commission épiscopale rwandaise, Mgr Philippe Rukamba, précise qu'il s'agit d'une demande de pardon pour des individus et non pour l'Église en tant qu'institution. Il a ainsi affirmé que l'Église n'a pas participé au génocide. En 2000, l'Église catholique rwandaise avait déjà formulé les mêmes excuses. Les tribunaux rwandais, le Tribunal pénal international pour le Rwanda ou la justice belge ont jugé plusieurs religieux et prêtres catholiques rwandais pour participation au génocide. Certains ont été condamnés et d'autres acquittés.
Pour leur part, les responsables religieux centrafricains, catholiques, musulmans et protestants ont célébré hier à Rome les vertus de leur dialogue qui, assurent-ils, commence à porter ses fruits, surtout chez les jeunes. Un dialogue qui a permis, selon l'archevêque de Bangui, Mgr Dieudonné Nzapalainga, devenu cardinal samedi, je cite, « de soustraire tant de jeunes à la propagande manipulatrice visant seulement à l'affrontement ».
Au Tchad, les magistrats en grève depuis plus de 3 semaines viennent de suspendre leur mouvement pour 1 mois. La décision a été prise hier matin en Assemblée générale pour Alara Kété Sanengar, le président du syndicat des magistrats. Cette suspension vise à donner au chef de l'État tchadien du temps pour examiner leur doléance.
L'UNESCO a condamné hier l'assassinat du journaliste Marcel Loubala de la télévision publique congolaise par des hommes armés dans le centre de la RDC. Dans un communiqué publié hier, la directrice générale Irina Bokova a déclaré compter sur les autorités congolaises pour que les auteurs de ce crime soient traduits en justice. Monsieur Loubala a été abattu dans la nuit du 14 au 15 novembre à Mbujimayi, capitale du Kasaï oriental.
Au Sénégal, des amis de longue date de Lamine Diack, ex-patron de l'athlétisme mondial inculpé de corruption, ont versé la caution de 500 000 euros que lui réclame la justice française. Chez Ruben Dorsil.
Lamine Diack est poursuivi depuis novembre 2015 pour corruption passive et blanchiment aggravé. Il est sous contrôle judiciaire en France. Son passeport étant confisqué, il ne peut quitter ce pays. D'après un communiqué diffusé par sa famille, des amis de longue date ont versé la caution réclamée par le parquet français, soit 500 000 euros. Le texte n'identifie aucun de ses amis de longue date. Cette caution devrait lui permettre d'éviter tout risque de détention provisoire. Un de ses fils, Papa Massata Diack, qui fut consultant à la Fédération mondiale d'athlétisme, est poursuivi dans la même affaire. Il est soupçonné d'être l'un des acteurs du système de corruption mis en place pour couvrir les cas de dopage. Il a été placé par Interpol sur la liste des personnes les plus recherchées à la suite d'un mandat d'arrêt émis par la France. Papa Massata Diack réside au Sénégal. En janvier, Dakar a exclu son extradition vers la France.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président élu Donald Trump a déclaré que ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche seront fondés sur un principe très simple, l'Amérique d'abord. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Donald Trump a publié sur YouTube une vidéo disant qu'il a instruit son équipe de transition de lui soumettre une liste de décrets qu'il peut prendre dès le premier jour de son administration. Des mesures qui vont, selon lui, restaurer nos lois et rapatrier nos emplois, que ce soit pour produire de l'acier, construire des voitures et guérir des maladies. Monsieur Trump a poursuivi, je veux la prochaine génération de production et d'innovation ici même, créant de la richesse et des emplois pour les travailleurs américains. Dès le premier jour, a encore promis M. Trump, il notifiera son intention de se retirer du TPP, l'accord commercial de partenariat transpacifique, et de renégocier ce qu'il a appelé des accords bilatéraux justes. Par ailleurs, pour toute nouvelle réglementation fédérale, il faudra en éliminer une ancienne. M. Trump va aussi demander au Pentagone de mettre au point un plan global pour protéger les infrastructures américaines contre les cyberattaques. Donald Trump n'a rien dit sur le mur qu'il avait promis de construire à la frontière avec le Mexique, mais il va demander au département du travail d'enquêter sur tous les abus de programmes de visa qui sont préjudiciables aux travailleurs américains.
Au moins 5 enfants ont trouvé la mort dans la sortie de route d'un bus scolaire lundi à Chattanooga, dans le Tennessee, dans le sud-est des États-Unis. Selon le chef de la police locale, Fred Fletcher, au moins 24 passagers du bus ont été transférés dans divers hôpitaux de la région. Nous pensons qu'il y avait 35 élèves à bord, depuis l'école maternelle jusqu'au primaire. C'est un cauchemar absolu pour la ville, a déclaré le chef de police, en précisant qu'aucun autre véhicule n'était impliqué dans l'accident.
En Syrie, les troupes du régime ont progressé rapidement hier dans les quartiers rebelles d'Alep. Selon l'ONU, ce sont près d'un million de personnes au total qui sont soumises depuis 4 mois à la tactique cruelle du siège. Claire Morin-Gibourg.
Les quartiers rebelles d'Alep ont de nouveau connu des bombardements incessants hier lundi. Matthew Rycroft, l'ambassadeur britannique à l'ONU, les a qualifiés de barbares. Son homologue français a lui dénoncé une stratégie de guerre totale pour reprendre Alep à tout prix. L'ambassadrice américaine Samantha Power a cité devant le Conseil de sécurité les noms d'une douzaine de généraux et colonels syriens accusés d'avoir ordonné d'attaquer des cibles civiles ou de torturer des opposants et qui, selon elle, devront un jour rendre des comptes. Le nombre de personnes assiégées par les belligérants en Syrie est passé de près de 400 000 il y a un an à plus de 970 000, a indiqué devant le Conseil de sécurité Stephen O'Brien, le patron des opérations humanitaires de l'ONU. Les habitants sont isolés, affamés, bombardés et privés d'aide médicale ou d'assistance humanitaire afin de les forcer à se soumettre ou à fuir, a-t-il souligné. C'est une tactique délibérée, une forme cruelle de punition collective.
Au Japon, l'avis de risque de tsunami a été levé mardi à la mi-journée sur l'ensemble des zones concernées de la côte est du Japon, 7 heures après un violent séisme qui avait provoqué un raz-de-marée ayant atteint 1 mètre près de Fukushima. Selon l'Agence nationale de météorologie, une alerte tsunami avait été lancée sur deux régions, Fukushima et Miyagi, et un avis de risque sur plusieurs autres après la secousse survenue à 6 heures locales. L'intégralité de ces avertissements sont désormais levés, mais l'agence prévient que des secousses secondaires de même ampleur, magnitude 7 environ, sont probables dans les 7 jours à venir.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nani Talani.
La Banque européenne d'investissement et la Commission européenne entendent financer quelques 3000 start-up et petites et moyennes entreprises africaines. L'objectif de Boost Africa est de générer 1 milliard d'euros à partir d'une mise de 100 millions d'euros. Il ne s'agit pas d'un financement direct, mais d'un capital risque qui permettra au système bancaire de financer les PME et les start-up, d'après le président de la BAAD, cité par Jeune Afrique. Dans la zone CEMAC, 16 banques sur 52 ont enregistré des pertes au 30 juin 2016. Deux banques se sont ajoutées à ce groupe d'institutions déficitaires cette année, puisqu'elles n'étaient que 14 sur la même période en 2015. C'est ce que rapporte l'agence Ecofin, citant la Commission bancaire de l'Afrique centrale. Enfin, le Nigeria s'enfonce dans la crise économique. Tombé en récession au deuxième trimestre, le géant pétrolier enregistre une contraction de son PIB de 2,24% en cette fin d'année, selon le Bureau national des statistiques. Le Nigeria souffre notamment de la chute du prix du baril et d'attaques récurrentes de ses installations pétrolières par des groupes rebelles, entraînant une perte de revenus pour l'État, une forte inflation de 18% et une pénurie de devises étrangères.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Klinsmann, limogé de la sélection américaine de football.
Jürgen Klinsmann a été limogé de son poste de sélectionneur des États-Unis hier, un poste qu'il occupait depuis juillet 2011, après deux défaites la semaine dernière qui ont grandement compromis la qualification des Américains pour le Mondial 2018 en Russie. Klinsmann, 52 ans, était en effet sous le feu des critiques après la défaite contre le Mexique à domicile de 2-1 et 4 jours plus tard, la fameuse déroute contre le Costa Rica, 4-0. On rappelle, Idrissa, que les États-Unis sont derniers du 5e et dernier tour des éliminatoires de la zone CONCACAF, alors que les 3 premiers seulement de ce mini-championnat seront directement qualifiés pour la Coupe du Monde en Russie.
Suite de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aucun pays africain n'accède au quart de finale.
Deuxième point décroché par les Ghanéennes dans la compétition après un nouveau match nul concédé contre les Américaines, 1-0. Mais les Ghanéennes terminent dernières de leur groupe. Dimanche, dans le groupe B, l'Espagne a été battue par le Nigeria 2-1, insuffisant néanmoins pour se qualifier pour les quarts de finale à cause d'une moins bonne différence de but pour les Nigérianes qui disent adieu à la compétition.
CAN féminine 2016, le Cameroun espère confirmer son bon début de compétition.
Après sa victoire en ouverture de la CAN contre les Égyptiennes, les Camerounaises affronteront tout à l'heure l'Afrique du Sud. Le Zimbabwe sera face à l'Égypte. On rappelle que dimanche, le Nigeria a puni sévèrement les Maliennes, victoire 6-0. Le Ghana a battu le Kenya 3-1.
Messi guéri reprend l'entraînement avec le FC Barcelone.
Oui, l'Argentin a repris l'entraînement après avoir manqué le match contre Malaga 0-0 en raison de nausées. C'est ce qu'a annoncé hier sur Twitter le club catalan. Le Barça devrait récupérer l'attaquant face au Celtic Glasgow pour le match de demain en Ligue des Champions. On rappelle que le club catalan en tête du groupe C avec 9 points sera qualifié s'il gagne au Celtic Park ou bien s'il fait match nul et si Manchester City ne s'incline pas contre le Borussia Mönchengladbach. Allez Idrissa, avec vous, quelques résultats de NBA. Le championnat de basket nord-américain cette nuit.
Miami Heat, Philadelphia Sixers 94-101. Phoenix Sun, Washington Wizards 101-106. Memphis Grizzlies, Charlotte Hornets 105-80. Golden State Warriors, Indiana Pacers 120-83. Houston Rockets, Detroit Pistons 99-96, Orlando Magic, Milwaukee Bucks 89-93, Dallas Mavericks, San Antonio Spurs 91-96.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, les remous sociaux sont loin de s'estomper. Après les mouvements des journalistes des médias publics et ceux des enseignants, c'est au tour maintenant du corps de la santé. Le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale va en effet débrayer aujourd'hui pour exiger le respect de la mise en application de leur plateforme revendicative. À Ouagadougou, des détails avec notre correspondant Issa Napon.
L'amélioration des conditions de vie et de travail, les carrières, les indemnités et le dossier de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques CAMEG, la revalorisation de la fonction soignante, les agressions multiples que subissent les agents de santé dans l'exercice de leurs fonctions, autant de points contenus dans la plateforme revendicative du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale SINCHA. Le syndicat dénonce un mépris du gouvernement à l'issue d'une première grève infructueuse voici un mois déjà et annonce cette fois une grève totale sans service minimum durant 72 heures dès demain mardi. Pissiamba Ouedraogo est le secrétaire général de SINCHA.
Nous avons, à la précédente grève, voulu montrer aux populations et au gouvernement, et surtout aux populations, que notre grève n'est pas dirigée contre elles. Et nous avons pour cela œuvré à organiser le service minimum. Et nous avons choisi, à notre corps défendant, un mot d'ordre de grève totale dans l'optique que le gouvernement puisse effectivement se pencher assez rapidement sur nos revendications. Nous savons que même lorsque nous travaillons, il y a beaucoup de désagréments. On sait bien que notre activité est socialement utile. Mais apparemment, nous, on pense que le gouvernement n'y croit pas. C'est pourquoi il n'a pas écouté à la première grève. Et les travailleurs, avec le syndicat, nous avons donc choisi cette forme-là pour effectivement nous faire entendre. D'abord, notre plateforme n'est pas satisfaite. Et deuxièmement, nous, on pense qu'elle n'est pas satisfaite parce que le gouvernement nous méprise. Il n'y a pas de sérieux lorsqu'il discute avec nous. Nous avons déposé la plateforme revendicative le 18 avril 2016. La première rencontre a eu lieu le 26 avril. Depuis, plus rien. Jusqu'à ce qu'on dépose la plateforme le 12 octobre 2016 pour avoir une rencontre le 18 octobre. Vous voyez, le gouvernement s'en fout de nous. C'est pourquoi les travailleurs ont estimé qu'il était de leur devoir de ne pas permettre qu'on abandonne le système de santé et les travailleurs de la santé de cette façon.
Un arrêt total du travail dans toutes les formations sanitaires du pays donc, et une marche de soutien prévue mercredi selon le syndicat afin de contraindre le gouvernement à examiner avec plus de sérieux leurs revendications. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Cameroun, le bilan des victimes qui ont consommé de l'Odontol, un whisky artisanal fabriqué dans la région de l'Est, continue de s'alourdir. Il y a à ce jour 30 morts et une centaine de personnes encore sous traitement dans les formations sanitaires de la région. Et les autorités ont appelé à l'arrêt définitif de la production et de la commercialisation de ce produit. Reportage de Moki Edwin Kinzeka.
Depuis l'annonce de cet incident tragique, plusieurs Camerounais se sont rendus à l'Est afin de se rassurer que leurs familles et autres ne font pas partie des victimes. Joseph Mwampi, chef traditionnel de Mwampi, avoue ne pas comprendre ce qui a bien pu se passer dans son village.
Madame est décédée hier nuit. Vous me voyez là, c'est le visage ici. Ça me fait très mal au cœur.
Parmi les habitants du village qui se sont retrouvés à la chefferie, Rose Mpane, âgée de 34 ans, donc le mari a succombé à l'intoxication à l'odontol.
Mon mari souffrait des yeux, ça n'allait plus. C'était déjà qu'il respirait déjà autrement. Quand on le porte pour l'amener à l'hôpital, en quoi, il rend l'âme.
Il y a de cela une semaine, les populations se plaignaient du fait que ceux qui ont consommé l'odontol, un whisky local fabriqué à partir du maïs et du vin de palme, s'évanouissaient aussitôt. Le bilan actuel fait état de 30 personnes qui ont perdu la vie après avoir consommé cette boisson dans le département de Haut-Nyon et une centaine qui reçoivent encore des soins médicaux dans les hôpitaux. Édouard Soulé est un rescapé hospitalisé à l'hôpital de Bomban.
J'ai pris un gobelet. Des gens qui font le trafic de l'odontol, ils vont souvent vendre ça tout le long des villages. Maintenant, bon, ça essaie d'aller, c'est juste les légers maux de tête.
Par ailleurs, le sous-préfet de Bomban, Richard Zenglin Tsu, attire l'attention des victimes encore en vie qui ont choisi de se réfugier chez les tradis praticiens et hommes d'église de se rendre dans les hôpitaux.
Mon problème surtout maintenant, c'est de sensibiliser les chefs pour qu'ils traquent tous ceux qui refusent d'aller à l'hôpital. Les ministres de culte qui s'entêtent à vouloir garder certains malades dans leurs églises.
Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, un Camerounais consomme l'équivalent de 8,4 litres d'alcool par an. Ces chiffres placent alors le Cameroun dans le top 10 des pays consommateurs d'alcool dans l'Afrique subsaharienne. Moki, Edwin Kinzeka, pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En Guinée, les loyers ne sont pas réglementés face aux difficultés que cette situation crée. Un groupe de députés a entamé une procédure visant à faire voter une loi qui organise le secteur. Mais en attendant, une pétition circule à Conakry pour dénoncer les loyers chers. Reportage de notre correspondant sur place, Zakaria Camara.
À Conakry, les loyers varient d'un quartier à l'autre et trouver un logement n'est pas une sinécure.
Vous allez bien ?
Les rues de la capitale, l'endroit choisi par un groupe de jeunes pour obtenir plus de signatures contre le loyer cher à Conakry.
Donc quand vous nous faites une pétition, vous allez donner une voix à la cause.
Opération réussie, les organisateurs obtiennent une signature de plus.
J'ai payé 2 ans d'avance. Dans les 2 ans d'avance là, tout dernièrement, on a fait 6 mois, il n'y a pas de douche. Le propriétaire vient récupérer l'argent. Il refuse de faire la douche.
La nouveauté, c'est une voiture qui sert de support pour les signatures. Plus de 2000 Guinéens ont utilisé le marqueur sur cet engin roulant. Dans la capitale, on ne se fait pas prier.
Si des citoyens se lèvent pour lutter contre le loyer cher en Guinée, nous devons tous ensemble, main dans la main, pousser les députés qui sont à l'Assemblée nationale afin de promulguer une loi qui ne serait-ce que là pour protéger le simple citoyen que nous sommes.
L'initiateur, c'est Tidjane. Ce jeune communicant veut mettre fin à une situation qui a créé un sentiment de ras-le-bol dans la capitale.
Voulez-vous payer 2 ans d'avance à quelqu'un alors que le SMIC en Guinée c'est 430 000, 440 000. Voyez tout ce désordre que l'État nous aide à réglementer ce secteur. Nous sommes fatigués, nous payons l'eau à l'État, nous payons le courant à l'État. Mais que l'État réglemente le secteur dans un premier temps, avant qu'on ait les logements sociaux, qu'on ait une loi réglementant le secteur comme l'a fait le Sénégal en 2014.
Il faut attendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour trouver un appartement à sa bourse à Conakry. Face à la crise, 3 députés ont introduit une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Objectif, réglementer le secteur.
Dans cette proposition de loi, nous avons insisté et nous avons mis dans le texte la création de la CONAREL. La CONAREL sera la Commission nationale pour la régulation du loyer en Guinée. Alors c'est elle qui va statuer sur beaucoup de choses. Et l'une des innovations majeures aussi qu'il faut noter dedans, c'est que dans le texte, dans la proposition de loi, nous avons jugé utile de limiter ces loyers exorbitants qu'on demande aux locataires qui sont dans l'incapacité de pouvoir les payer. Alors cette fois-ci, c'est 1 mois de loyer que nous exigeons et 2 mois de caution.
Le gouvernement guinéen a promis la construction des logements sociaux, mais cela pourrait prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. En attendant, les Guinéens comptent sur l'Assemblée nationale et espèrent obtenir une loi qui réglementerait le secteur des logements en République de Guinée. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Sigiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
Pour les catholiques, l'année sainte du jubilé, centrée sur la miséricorde, a pris fin dimanche. Et hier, le pape François a publié une lettre apostolique. Il précise que cette miséricorde ne peut pas être une parenthèse dans la vie de l'Église, et il donne désormais à tous les prêtres la possibilité d'absoudre l'avortement, même si cela reste un péché grave. Claire Morin-Gibourg a joint au Vatican le père Janvier Yamehogo qui revient sur ce jubilé de la miséricorde.
On peut dire que la miséricorde fait partie des thèmes clés du pontificat du pape François. Dès sa première année, il n'a cessé de parler de la miséricorde. Vous vous rappelez, il a comparé l'Église non pas à une douane, mais à un hôpital de campagne. Lors d'une homélie, c'était en mai 2013, où il disait « Les églises doivent garder les portes ouvertes pour accueillir tous ceux qui veulent s'approcher de Dieu. » Et c'est dans ce cadre-là qu'est venue l'annonce de l'année de la miséricorde, où le pape invite toute l'Église à se pencher sur les blessures de notre monde. Donc c'est un thème qui est récurrent. Nous avons affaire à un monde blessé. Et il compare même l'Église à un hôpital de campagne après une guerre, où on n'a pas le temps de demander beaucoup de précisions. Mais il faut soigner les blessures, c'est urgent. Et à la fin de cette année de la miséricorde, le pape a des expressions fortes en disant que les portes se ferment pour l'année dans les églises, mais nos cœurs doivent rester ouverts et nous devons devenir des disciples de la miséricorde.
Le pape François s'est aussi félicité de l'expérience donnée par ce jubilé et il a notamment étendu à tous les prêtres la faculté d'absoudre le péché d'avortement. Est-ce que vous avez été étonné de cette mesure?
Non, pas du tout, pas du tout. Le pape, il insiste sur l'ouverture que nous devons avoir. Et il appelle à approfondir vraiment le sens de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Je ne veux pas aller dans la polémique pour dire que, en fait, ce n'est pas minimiser la gravité de ce péché qu'est l'avortement, mais c'est montrer la possibilité de clémence. Et il dit, l'avortement est un péché grave parce qu'il met fin à une vie innocente. Mais il dit aussi que ces femmes sont des femmes blessées, des êtres blessés, qui doivent rencontrer le regard aimant de Jésus qui veut les pardonner si, bien sûr, elles ont le cœur contrit et elles demandent à être réconciliées avec Dieu le Père. Vraiment, c'est pour, disons, démocratiser la miséricorde pour lutter contre ce qu'il appelle l'indifférence.
Le père burkinabé Janvier Yamehogo, chargé du secteur francophone et du continent africain, au Conseil pontifical des communications sociales du Vatican.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Dans Washington Forum ce jeudi, Tatiana Mosso avec vous. Retour sur la COP22 à Marrakech après deux semaines de discussions. Un sommet marqué par l'incertitude suite à l'élection aux États-Unis du climato-sceptique Donald Trump. Quelle avancée dans l'application de l'accord de Paris? Quel bilan pour le continent africain, notamment les partis des Verts? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, avec nos invités.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de VOA Afrique. Vos commentaires sur notre page Facebook Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-85-40. Je répète, 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction, Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.